meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans le meilleur de Sud Radio. C'est un plaisir de vous accompagner comme tous les week-ends. On va tout de suite réécouter un extrait des vraies voix. Lundi, Philippe Rossi et ses chroniqueurs Michel Pouzol, Laura Tenoudji et Philippe Bilger recevaient Emmanuel de Richouf, général de division à la retraite et co-signataire de la fameuse tribune des militaires. Une lettre ouverte qui suscite une très vive polémique jusqu'au plus haut sommet de l'État. Écoutez.
Nous demandons que le garde des Sceaux fasse son travail et nous demandons le châtiment des coupables.
On lui tranche la tête !
Ce pouvoir a une apparence, un carteron de généraux en retraite.
Ah, à vos ordres, mon général !
Un groupe d'officiers partisans ambitieux et fanatiques.
Croyez-vous que votre coup d'État soit une preuve d'intelligence ?
Non, d'autorité tout au plus.
Le grand débat des vraies voix, c'est avec Laura Tenoudji, Philippe Bilger, Michel Pouzol et notre invité, co-signataire de la tribune donc, Emmanuel de Richouf, général de division à la retraite. Bonsoir mon général, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Bonsoir à vous. Alors évidemment, cette tribune fait beaucoup parler depuis 48 heures. Alors ce qui fait surtout beaucoup parler, c'est évidemment certains qui disent que c'est un appel évidemment au patriotisme. D'autres qui disent que, comme Jean-Luc Mélenchon, que ça ressemble à un appel à un putsch, à un coup d'État. Je vais vous lire les quelques lignes qui apparemment ont été mal comprises. C'est ce que j'ai cru comprendre de la bouche de certains de vos collègues qui ont signé la tribune. Je vais lire ces quelques lignes. Si rien n'est entrepris, continue donc les signataires. Donc c'est vous. Le laxisme continue à se répandre inexorablement dans la société, provoquant au final une explosion et l'intervention de nos camarades d'actifs dans une mission périlleuse de protection de nos valeurs civilisationnelles et de sauvegarde de nos compatriotes sur le territoire national. Il n'est donc plus temps de tergiverser, sinon demain la guerre civile mettra un terme à ce chaos croissant et les morts dont vous porterez la responsabilité se compteront par milliers. Il est donc du devoir de tous les patriotes de se lever pour le salut du pays. Voilà les quelques lignes qui font polémique aussi aujourd'hui. Monsieur de Richouf, est-ce que c'est un appel au patriotisme ou est-ce que c'est un appel au putsch, à se soulever, mon général ?
Alors, moi, si vous voulez, je ne suis pas du tout… D'abord, est-ce que vous avez lu, est-ce que vous, les journalistes, vous avez lu le courrier ?
La tribune en entier, bien sûr. Enfin, moi, je l'ai lu pour ma part. Je ne sais pas si
mes confrères l'ont lu. Vous venez de me dire, guerre civile prend un terme à ce chaos croissant et les morts. On ne parle pas de milliers de morts. Hmm. Donc déjà vous faites une erreur de syntaxe, me semble-t-il. Alors d'abord, c'est une tribune, c'est pas une tribune, c'est une lettre ouverte.
Très bien.
De citoyens à la retraite, généraux à la retraite et autres, parce que les signatures sont très nombreuses en ce moment, de militaires qui ont la France chevillée au corps, qui ont donné un certain nombre d'années de leur vie, pour ma part 36 années, à la patrie, pour faire en sorte que mon pays soit présent dans des théâtres d'opérations difficiles pour lesquels le gouvernement m'avait demandé d'y aller. Et j'ai emmené mes hommes là-bas 9 fois. Et je dois dire que je suis un petit peu la sentinelle, après toutes ces années, je suis un petit peu la sentinelle attentive du sort de mon pays. Le sort de mon pays aujourd'hui va mal. Et mon pays va mal parce qu'un certain nombre de choses, un certain nombre de missions, un certain nombre de résolutions n'ont pas été faites au moment voulu. Aujourd'hui, j'allais dire que le gouvernement actuel ne fait que, prendre la queue de trajectoire des gouvernements précédents qui n'ont pas fait autre chose que de ne rien faire, depuis maintenant 30 ans. Donc je suis cette sentinelle. Nous sommes cette sentinelle. Il n'y a pas lieu à polémiquer. Il ne s'agit pas de dire les armées vont aller dans les banlieues. On s'en fout, ce n'est pas le but. Le but n'est pas là. Le but est de dire, attention, il se passe des choses graves. Les forces de police, de gendarmerie n'auront peut-être pas demain des capacités suffisantes pour aller rétablir l'ordre et remettre l'État à sa place. Et dans ce cadre-là, les forces de troisième catégorie, que sont les forces militaires d'actives, seront contraintes sous ordre gouvernemental d'y aller. Et c'est ce que l'on ne veut pas. On se dit, il faut faire vraiment quelque chose aujourd'hui.
Alors, excusez-moi.
Quelque chose aujourd'hui, c'est peut-être un dernier moment. Il faut le faire rapidement.
Alors, voilà. Il y a une phrase qui fait beaucoup parler, et je donnerai la parole aux vraies voix dans quelques instants. Voilà. Il est du devoir de tous les patriotes de se lever pour le salut du pays. Voilà. C'est cette phrase qui fait un peu polémique. Et j'aimerais écouter qu'on écoute la réaction de Marine Le Pen, justement, à cette phrase. Elle était en conférence de presse. Écoutez.
La situation du pays est terriblement inquiétante, que les zones de non-droit, la criminalité, la haine de soi, le refus du patriotisme par nos dirigeants sont des éléments, effectivement, de délitement de la nation. Qu'est-ce que je leur réponds ? Je leur réponds que je partage leur affliction, je partage leur constat et que je pense que ces problèmes se règlent par la politique et par un projet politique validé par les Français dans un cadre évidemment démocratique.
Voilà, dans un cadre démocratique, c'est ce que dit Marine Le Pen. J'imagine que vous et les signataires, vous pensiez évidemment à cela lorsque vous avez écrit « Il est devoir de tous les patriotes de se lever pour le salut du pays ».
On n'a pas dit. Je dirais qu'il est. Ça nous a. Je veux dire qu'il est. Il n'est pas question de faire je ne sais quel appel à la révolution ou que sais-je. On s'en fout complètement. N'est pas le but. L'objectif, c'est bien celui de prendre conscience qu'il y a en ce moment des problèmes extrêmement graves qui n'ont pas été résolus et qu'il faut faire quelque chose.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et Philippe Rossi et son équipe des Vraies Voix vous donnent rendez-vous dès lundi de 17h à 19h. On continue avec un extrait de la matinale de jeudi. Patrick Roger et Cécile de Minibus recevaient la journaliste Sonia Mabrouk, venue présenter son nouveau livre « Insoumission française », un cri d'alarme contre les nouvelles menaces qui pèsent sur notre civilisation et sur nos libertés. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Oui, bonjour Sonia Mabrouk. Alors c'est un livre d'engagement, engagement pour certaines valeurs de la France républicaine. Est-ce que vous n'avez quand même pas le sentiment que vous outrepassez finalement votre rôle de journaliste, et là on est en plein dans le débat en fait actuel, avec de telles prises de position ?
Alors ça dépend ce qu'on entend par outrepasser le rôle de journaliste. Pour moi, un journaliste c'est quelqu'un qui est d'emblée engagé, mais pas engagé avec une étiquette politique. Mais je vous le dis modestement, mes références c'est à la fois Jean Daniel, Jean Lacouture, pour des combats extrêmement différents bien sûr, et selon l'époque et l'histoire, et qui ont été des journalistes engagés, qui ont écrit, qui l'ont dit à l'antenne, qui ne l'ont pas caché. Et moi, je préfère avancer sans masque et dire voilà, quel combat, entre guillemets, mais je pense quand même qu'il y a une majorité de Français qui les partagent, et que ce soit transpartisan. C'est ça un engagement.
Oui, mais après, c'est compliqué de faire des interviews aussi de façon peut-être un petit peu plus neutre. Quand vous faites l'interview de la responsable de l'UNEF, évidemment, sur les réunions racisées, comment vous l'abordez dans ces conditions ? Parce que vous prenez position à travers votre...
D'abord,
livre.
Elle a demandé un droit de réponse, donc ça, j'y réponds. Et ouais, je trouve que ça, c'est déjà bien. C'est-à-dire que j'avais interviewé juste avant la ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur, et la présidente de l'UNEF appelle en disant « moi, je veux réagir ». À partir de là, je dis « très bien, mais vous allez réagir sur ces sujets sur lesquels vous êtes mis en cause, en tous les cas sur lesquels vous devez vous expliquer ». Et puis à partir du moment où quelqu'un en face dit qu'il y a en France des réunions en non-mixité raciale, je vous promets que c'est une discrimination. Donc ce qui devrait frapper les gens, en tous les cas les interpeller, c'est pas parfois le ton d'un entretien, mais c'est plutôt ce qui est dit, et ça c'est une discrimination qui a été comme ça, dite en direct à l'antenne, c'est ce qui a provoqué ensuite les remous.
Est-ce que c'est politique en fait ? Est-ce qu'on peut considérer que c'est politique ?
Tout est politique.
Oui, ou pas du tout politique ?
Qu'est-ce qui est... Un engagement, moi... La politique, c'est la vie de la cité. À partir du moment où en fait, vous touchez ce qui peut changer dans la vie des gens, mais pas, là, je ne parle pas d'un quotidien, mais tout simplement dans des engagements, oui, c'est de la politique, mais ce n'est pas un gros mot. Et les journalistes peuvent faire de la politique au sens d'engagement.
Alors voilà, est-ce qu'il n'y a pas un risque de confusion là, actuellement ? Quand on voit le passage à la politique d'un journaliste de LCI, Philippe Ballard, passé au Rassemblement National,
vous savez très bien, Patrick Roger, que ça dure depuis des années. Vous avez tellement d'exemples, Laurent Saïm, Claude Sérillon, Bruno Roger Petit, Noël Mamère, etc. Il y en a eu. Et ça, ce sont
des
gens...
Quand on fait un voyage, d'ailleurs, normalement,
ça devrait être sans retour.
Ça devrait être sans retour.
Mais bon, quelle que soit l'étiquette politique qu'ils rejoignent, ce sont des gens qui claquent la porte aussi d'un média, donc dont acte. On peut quand même avoir une vie après avoir été journaliste, mais il faut le dire. Ouais. Moi, j'avance pas masqué, et ce sont pas des sujets que j'estime... être, pris en otage par un parti ou un autre. Enfin, je l'espère. Sinon, c'est grave. Il ne faudrait pas le laisser à un parti.
C'est intéressant parce que ça permet, je pense que ça intéresse beaucoup les auditeurs. Et du coup, on rentre un petit peu aussi dans les coulisses. Est-ce que vous trouvez qu'il y a justement des débats politiques au sein des rédactions ? Il y en a trop, pas assez, ou justement ?
Écoutez, parfois on dit qu'il y a de... J'aime pas le mot islamo-gauchisme, moi je parle des islamo-compatibles, puisque malheureusement il y a eu des compromissions, justement, quelles que soient les étiquettes politiques, mais je pense que dans les médias, il faut avoir moins de pudeur de gazelle, si je puis dire, aborder certains sujets. Et qu'aujourd'hui, quand vous faites un entretien sur ce sujet, ça paraît être quelque chose de particulier, d'exceptionnel, et on vous dit que vous portez un combat. Mais non, je vous rappelle qu'on parle de choses qui ne devraient pas exister. On dénonce des compromissions. Et moi, quand on me dit, mais vous êtes engagé, mais je suis engagé sur quoi ? La norme, c'est pour ça qu'il y a une inversion des normes. La norme, c'est qu'il n'existe pas des réunions en non-mixité raciale. Et le problème n'est pas la question que l'on pose, c'est la réponse qui est apportée. Alors après, malheureusement, ça, enfin, malheureusement, oui. ça peut entraîner parfois des réactions qui sont épidermiques, en particulier par la présidente de l'UNEF ou d'autres. Mais moi, je pense que c'est l'essence même de l'engagement.
Et pourquoi on n'ose plus aujourd'hui dire qu'on est, on est patriote, en fait ? Pourquoi c'est un gros mot ?
Bah justement, par rapport à ce que vous dites, parce qu'il a été pris en otage, il a été accaparé.
Il y a une histoire avec, avec Vichy, hein, bien sûr.
Il y a une histoire avec Vichy, mais de toute façon, l'histoire doit être prise d'un bloc. Mais ça ne veut pas dire... Moi, ce qui m'a toujours interpellée, c'est que dans d'autres pays, en particulier un pays où je suis née, on peut dire qu'on aime son pays sans qu'il y ait un problème. Pourquoi on ne pourrait pas le dire en France ? Est-ce qu'être patriote, évidemment, ça a été repris, vous avez rappelé l'histoire, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut le laisser. Moi, je suis patriote au sens, j'allais dire...
Il faut reprendre ces mots, justement, noble, pour qu'ils soient plus...
Mais évidemment, noble du terme, et j'espère qu'ils ne sont pas confisqués aujourd'hui, et surtout, ne pas les laisser.
Oui, et vous voulez contribuer au débat. Pourquoi alors ? Parce que vous parlez d'un renoncement civilisationnel.
Civilisationnel.
Ah, ben, j'arrive pas à le dire. Depuis ce matin, je n'arrive pas à le dire.
Comme
quoi, il y a un problème sur ce mot.
Sur ce sujet,
parce que qu'est-ce qui est menacé, selon vous ?
Mais écoutez, l'objet de ce livre, c'est d'essayer d'expliquer en tous les cas, puisque parfois on a dit que ça venait des États-Unis. Moi, je pense qu'il y a une spécificité française par rapport à des thèses dites intersectionnelles. De quoi on parle ? On parle d'un nouvel antiracisme, d'un néo-féminisme, mais vraiment radical, d'une écologie aussi. On parle de radicalité, c'est-à-dire pousser à l'extrême certaines idées. Et malheureusement, tous les tenants de ces thèses-là, de ces idéologies, veulent, ou disent en tout cas qu'ils veulent rassembler, mais en excluant. Moi, je pense modestement que quand vous voulez rassembler, là, je reprends encore une fois l'exemple des réunions en nombre mixte racial, comment vous voulez, Patrick Roger et Cécile de Ménibus, lutter contre une discrimination si l'autre, déjà, dont vous pensez qu'il est l'auteur, et parfois c'est le cas, vous l'excluez. Mais comment bâtir un projet commun ? Ça devrait être l'essence même d'un sujet, d'un projet que de partager ces différences.
Parce qu'on vous répond que c'est ce qui se faisait aussi par avant de l'autre côté. Quoi. Donc finalement, pour pouvoir avancer, il est mieux d'être regroupés ensemble.
Quand vous parlez
que des femmes, que des femmes abordent ensemble des problèmes qu'elles peuvent rencontrer dans leur vie, par exemple. Quoi.
Justement, je voulais y venir, parce que des femmes ensemble, non, même des clivages chez les femmes. En fait, vous parlez vous revenez sur certains mouvances féministes qui opèrent des soutiens quand ça les arrange. Vous revenez d'ailleurs sur ce tri, hein, lâché, la philosophe Sylviane Agazinski qui a été aussi lâchée. Et en fait, même entre femmes, c'est-à-dire qu'on n'est pas soudés.
Mais c'est ça ce qui était l'exemple. Écoutez, pour vos auditeurs, j'avais reçu Alice Coffin, qui est l'auteur du génie lesbien, et avec qui j'ai vraiment un débat d'idées, et une confrontation, une émulation sur les idées. Et ce jour-là, quand on l'avait reçue, elle avait dit autour des hommes qu'il fallait les éliminer symboliquement. Elle a été exclue d'un institut où elle enseignait, et je lui dis, c'est une forme de censure, et on peut s'en émouvoir. Mais je lui dis, mais est-ce que de la même manière, est-ce que vous condamnez la censure dont a fait l'objet Sylviane Agazinski, la philosophe, parce qu'elle-même, dans une université à Bordeaux, elle n'a pas pu venir, tout simplement parce qu'on lui reprochait ses idées et ses positions anti-PMA. Eh ben, il n'y a pas eu de réponse. On ne peut pas, si vous voulez, faire un tri entre les victimes qu'on défend quand on porte une cause aussi noble que le féminisme, que l'antiracisme, etc. C'est-à-dire qu'il faut tout simplement, quelle que soit la couleur de la victime, sa confession, etc., son parcours, la défendre. Sinon, vous n'êtes pas sincère dans votre cause.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et rendez-vous dès lundi de 7h à 10h dans le Grand Matin Sud Radio avec bien sûr Patrick Roger et Cécile de Ménibus. Ne bougez pas, on va revenir dans un très court instant avec André Bercoff et son invité Céline Pina, essayiste et fondatrice du mouvement citoyen Vivre la République. A tout de suite.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans le meilleur de Sud Radio. On va réécouter un extrait d'André Bercoff dans tous ses états avec son invité Céline Pina. Mais d'abord, on va s'écouter le dernier titre de Julien Clerc. C'est un titre solaire au rythme chaloupé, écrit par Clara Luciani, dans lequel le chanteur aux 11 millions d'albums vendus vous fait littéralement voyager. Voici Mon Refuge sur Sud Radio.
Emmène-moi loin de cette ville que je connais par cœur. Emmène-moi en plein hiver dans le port de Honfleur. Et tu seras mon refuge où que nous allions. Emmène-moi voir le Japon, ses cerisiers en fleurs. Emmène-moi écouter les sirènes, envoûter les pêcheurs. Et tu seras fut jour que nous allions. Emmène-moi, embrasse-moi à l'ombre des pommiers. Ce sera dimanche tous les jours de l'année. Et emmène-moi dans des forêts sombres où nous nous perdrons. Et emmène-moi voir les pyramides, saluer les pharaons. Et tu seras mon refuge où que nous allions. Emmène-moi, embrasse-moi à l'ombre des pommiers. Ce sera dimanche tous les jours de l'année. Et tu seras mon refuge où que nous allions. Faut dire qu'avant toi, jamais je n'ai eu de maison. Oui, tu seras mon refuge où que nous allions. Allez, emmène-moi, emmène-moi, emmène-moi.
Mon refuge dans le meilleur de Sud Radio, très beau titre extrait du 26e et dernier album de Julien Clerc intitulé Terrien, déjà numéro 1 des ventes. On continue avec André Bercoff dans tous ses états. L'animateur recevait mardi Céline Pina, essayiste et fondatrice du mouvement citoyen Vivre la République, à l'occasion de la sortie de son livre intitulé Ses biens essentiels, un livre dans lequel elle tire une leçon toute particulière de cette époque sombre de notre histoire. La vie n'est pas l'ultime bien essentiel. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio, Trina Magdine.
Céline Pina, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez fait un livre, effectivement, alors vous y allez, alors, partout. Alors, c'est vraiment, alors, moi, je suis dans tous mes états, mais ce n'est rien à côté de vous. Vous, c'est à tous les étages, alors vraiment. Vous reparlez de l'absurdistan, vous parlez du sanitarisme, vous parlez du Covid, vous parlez de tout ce que nous avons vécu, vous parlez du woke, de la cancel culture, c'est vrai qu'il nous occupe beaucoup en ce moment. Vous parlez de ce qui est en train, effectivement, de cette termitière dans laquelle on vit et qui se creuse et se fendit, hélas, de toutes parts. Et puis vous dites, on a oublié l'essentiel. Et c'est bien, parce que vous savez qu'il y a eu beaucoup de, et vous en parlez d'ailleurs dans votre livre, Céline Pina, des grands magasins où il y avait les biens essentiels qui étaient ouverts et les biens inessentiels comme les livres, par exemple, à l'époque, où on bâchait, effectivement, on mettait du papier collant pour éviter cela. Et puis vous dites, il y a quelque chose qu'on oublie, c'est la culture, dans tous les sens du terme. Alors expliquez-nous, qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui est inessentiel, parce qu'on ne sait plus aujourd'hui.
En fait, je suis tombée un peu par hasard sur une phrase de Churchill, alors probablement apocryphe. De toute façon, toutes les plus belles phrases en général sont apocryphes, mais on s'en moque éperdument. Absolument. Parce qu'en fait, leur poids, c'est qu'elles, dans une fulgurance, elles vous donnent toute la température d'une époque. Et on raconte que Churchill, en pleine Seconde Guerre mondiale, on vient le voir et on lui dit, écoutez, il faut couper un peu sur le budget des arts parce que là, on est en guerre, on ne va pas s'en sortir. Et Churchill aurait répondu, mais pourquoi nous battons-nous si ce n'est pour la culture ? Et effectivement, à l'époque, on est pendant la Seconde Guerre mondiale et ce qu'on va mettre en place, c'est autant la Première Guerre mondiale, on va appeler ça une boucherie. Et elle va d'ailleurs aboutir à ce qu'un certain nombre de régimes politiques se cassent la figure. Mais dans la Deuxième Guerre mondiale, j'allais dire, c'est l'apogée de la démocratie. C'est le moment où on se bat pour la liberté contre un totalitarisme hyper violent.
En même temps, contre
les
boucheries, parce qu'il y en a eu des boucheries.
Il y en a eu. Il y a même eu un crime contre l'humanité. C'est-à-dire, c'est là où on est allé tellement loin qu'on en a même perdu une part de notre nature humaine. Même qu'on a peut-être, c'est le moment où l'homme a touché de plus près à une forme de damnation sur terre. C'est il y a quand même des choses extrêmement lourdes, mais à la sortie de cet épisode violent, on a un vrai moment. C'est pas pour rien si le programme du CNR s'appelle Les Jours Heureux, et tout d'un coup,
le Conseil national de la résistance,
voilà, et ce qui a créé d'ailleurs la sécurité sociale. Et tout d'un coup, on va investir sur la solidarité, sur la démocratie, on va investir sur énormément de biens essentiels qui sont immatériels. Et ce que nous a montré la Seconde Guerre mondiale, c'était que finalement, la vie n'est pas l'ultime bien essentiel. C'est-à-dire qu'il y a des moments moments dans l'existence où vous pouvez vous trouver face à de tels monstres qu'il va falloir vous battre.
Et donc risquer sa vie
pour des choses bien plus importantes et pour sans doute offrir à ses enfants et à ses descendants un monde qui ne soit pas un monde de monstres. Et on voit bien que les biens essentiels, ils sont immatériels et ils sont souvent culturels, politiques, démocratiques. Et c'est sans doute exactement ce qu'on est en train d'oublier durant cette crise.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et pour retrouver André Bercoff dans tous ses états, rendez-vous tous les jours de 12h à 14h. Je propose qu'on écoute maintenant un extrait du 10h midi de mardi de Valérie Expert. Pour le traditionnel coup de cœur, coup de gueule, l'animatrice et ses débatteurs vont souhaiter rendre hommage à Albert Elbaz, décédé du Covid à l'âge de 59 ans, un grand nom de la mode qui avait notamment dépoussiéré la maison Lanvin et qui laisse derrière lui une industrie en deuil.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Petit tour de table de ce qui a retenu votre attention dans l'actualité. Jean-Claude, c'est un hommage.
Hommage à Albert Elbaz, 59 ans, jeune, qui vient de décéder du Covid. Et ça fait le lien avec les sujets d'après. C'est la preuve qu'on peut mourir jeune du Covid. Et puis, c'est aussi un hommage à ce grand de la mode, à la fois parce qu'il l'inspirait, par sa créativité, mais également parce que le milieu de la mode reste une vraie marque de notre culture française. Et c'est important de le rappeler au moment où on est dans véritablement la sinistrose, où on dit qu'on perd confiance en soi, où le sentiment de fierté nationale n'existe plus. Ben, il y a de très belles choses que l'on fait. Donc c'est vrai que ce départ d'Albert Elbaz nous touche beaucoup, après celui de Kenzo, cette année, toujours du Covid. Donc voilà, je voulais... Vous savez, la mort, parfois, on a tendance à pleurer, on profite, je ne sais pas si c'est un coup de gueule ou un coup de cœur, de dire ben, finalement c'est une tranche de vie qui s'en va, il restera un peu avec nous, sa flamboyance va rester, le fait qu'il ait fait vivre un certain nombre de maisons, de grandes maisons de mode qui font, et je sais que Jacques Myard est diplomate, donc on sait à quel point l'identité française passe aussi par la mode à l'étranger, ça aussi c'est la grandeur de la France, ne l'oublions pas, ce sont ces hommes et ces femmes qui font la grandeur de notre pays.
Ouais, et qui a été assez maltraité, hein, Albert Elbaz.
Absolument.
Qui a été viré.
Oui, alors là, je vais vous dire, il faut prendre ça. Vous savez, en tant qu'avocat, moi, je le vois, j'ai des dirigeants aussi, petits ou grands, dans mes clients. Vous savez, quand on est dirigeant, tôt ou tard, on est débarqué. Je dis souvent, alors après, il y a l'art et la manière. Il faut psychologiquement se préparer. Je dis souvent à mes clients, vous savez, à un moment donné, vous serez dirigeant, la question, c'est combien est-ce qu'on met sur la table.
Non, mais on peut rajouter quand même que le milieu de la mode est un milieu très très particulier, et Albert Elbaz était certainement un type d'une qualité humaine remarquable, assez rare dans le domaine, et malheureusement les gens qui sont de vrais gentils dans ce domaine-là, souvent je pense à Christian Lacroix il y a 25 ans,
c'est vrai, vous avez raison, mais vous savez, moi je vois beaucoup de gens, y compris dans tous les milieux, à tous les niveaux sociaux, psychologiquement on n'est jamais bien traité, malheureusement, vous savez, que vous soyez ouvrier ou PDG, je me souviens de Michel Bon qui avait expliqué qu'il avait appris dans sa voiture, en allant au bureau avec son chauffeur, qu'il avait été viré dans la nuit, on ne l'avait même pas prévenu, ou tel ministre qui était, c'est Fleur Pellerin, qui disait qu'elle a appris à l'Assemblée qu'elle n'était plus reconduite, on ne lui avait même pas passé un petit coup de fil. Psychologiquement, c'est toujours très dur. Voilà.
Ouais, absolument.
Jean-Claude a raison de souligner la valeur et la puissance, justement, de tous ces créateurs de la mode. Il le fait d'autant plus, il a d'autant plus raison qu'aujourd'hui, il y a d'autres sites tels que Milan qui nous taillent des croupières. Donc, et c'est pour ça que je porte une cravate, moi. Vous savez pourquoi ? Parce que je soutiens l'industrie de la cravate, qui est une industrie proprement française, et les Américains, en changeant la mode, eh ben, ils flinguent l'industrie française.
Nous sommes deux, voilà, nous sommes deux, Jacques.
Shame on you.
Très bien.
Bravo.
Shame on you, Mathieu Alterman.
Mais j'adore la cravate et je suis pro-cravate également.
François Monbois, c'est chez lui, donc il n'est pas sans cravate. Voilà.
Ça peut arriver.
Ça peut arriver aussi. François Monbois, vous vouliez rendre hommage aussi à quelqu'un, à Stéphanie.
Oui, parce que les journaux, et je trouve que c'est une très bonne idée, ont publié le visage, le portrait de cette dame qui a été assassinée. Et je trouve ça très bien parce qu'on vivait avec, enfin moi en tout cas, l'image d'une policière assassinée. Ouais. Et donc j'imaginais plutôt une jeune femme avec un pistolet, un uniforme, qui court dans la rue, enfin qui est active. Et là, on voit une dame comme on en voit quand on va à la mairie changer son carte d'identité ou à la poste ou... Enfin, une dame qui est derrière le guichet et qui est au service du public, une dame normale, quoi. Mmh. Et je trouve que ça rend l'horreur de ce qui s'est passé encore pire. C'est pas un soldat, ouais. C'était une dame, ouais, absolument normale qui a été assassinée.
Oui. C'est effectivement, on imaginait une policière en faction ou voilà, quelqu'un en uniforme, et c'était ça ne retire ni n'ajoute rien à l'horreur de ce qui s'est passé.
C'est une chose importante, c'est que beaucoup de gens comprenaient pas pourquoi la personne, la victime, n'était pas armée. On comprend pourquoi maintenant, sauf qu'elle faisait partie du cadre administratif,
du personnel,
bien sûr.
Administratif, exactement. Absolument. Vous avez raison, Mathieu, vous, c'est un coup de gueule.
Oui, alors ça m'a fait rire quand je l'ai lu, mais je vais vous le dire. En fait, le média financier Bloomberg a publié son paramètre mensuel Covid résilience. En fait, c'est les mesures des meilleurs et pires pays de la planète en ces temps de pandémie. Alors, ils croisent des données comme la circulation du virus, la gravité de la circulation, et ils croisent également avec la qualité de vie en fonction des mesures adoptées sur les restrictions. Et bah, sur les 53 pays, la France est 42e, juste après le Bangladesh et juste avant l'Irak. Alors, on se rassure, hein, le Brésil, ils sont derniers, mais c'est quand même un classement qui fait peur parce qu'il est suivi dans le monde entier et qui installe la France clairement en deuxième, troisième, quatrième division. Parce que moi, j'ai plein de gens autour de moi qui disent, c'est pas qu'on est contre la France, c'est pas qu'il n'y a aucune haine, tout ça, mais on ne comprend pas ce qui se passe chez vous. Une interrogation. Et ce classement vient corroborer cette interrogation. Comment la France peut être 42e, quoi.
Oui. Une remarque, François, ou sur ce classement?
Je sais pas, on en parlera un peu plus
oui,
tard.
Oui, on en parlera tout à l'heure.
Puis tout dépend de ce que, tout dépend de la manière, quels sont les critères qui ont été retenus pour ce classement.
Les critères sont les mêmes pour tous les pays.
Mais après on peut avoir des critères qui nous désavantagent. Cependant, là où il y a un vrai signal d'alarme, nous sommes un grand pays, nous sommes censés être un grand pays industriel. Nous sommes au nombre des 10 plus grands, les premières puissances mondiales, 10 premières puissances mondiales. Nous avons une administration qui est censée être formée, nous avons des militaires qui sont formés, des fonctionnaires qui sont formés, des experts. On est surpris de ce que nous n'ayons pas en place des process qui nous permettent, et on l'a bien vu, qui nous permettent d'anticiper, de gérer, d'accompagner des situations
absolument
de crise.
Et pourquoi ? Parce qu'on a le personnel, mais le logiciel, il date de 1978.
Bon. Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et pour retrouver Valérie Expert et ses invités, rendez-vous dès lundi dans le 10h midi. Allez, on va revenir dans quelques minutes avec la chronique de Cédric Cizère qui a répondu comme d'habitude en humour à vos messages. Et c'est sur le répondeur de Sud Radio. Restez avec nous.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
De retour pour la dernière partie du meilleur de Sud Radio. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Avant de retrouver la chronique de Cédric Cizère, on va s'écouter un titre de Tears for Fears. C'est d'ailleurs ce titre qui a fait connaître le groupe aux États-Unis. Certifié disque d'argent au Royaume-Uni et disque d'or au Canada, il a remporté le Brit Award du meilleur single britannique en 1986. Voici Everybody Wants to Rule the World sur Sud Radio. Everybody Want to Rule the World dans le meilleur de Sud Radio. Troisième single extrait de l'album Songs from the Big Chair du groupe Tears for Fears. Comme chaque week-end, on va terminer en humour avec la chronique de Cédric Cizère. Lundi, il a répondu au message d'un auditeur directeur de club de vacances naturiste clandestin. Et comme vous allez l'entendre, cet auditeur avait un scoop pour Sud Radio. Écoutez. Et c'est lundi, he's back, rien à voir avec le diplôme, juste qu'il est de retour.
Bonjour mes chers compatriotes, c'est vrai que le diplôme et Cédric Cizère, ça sonne pas bien ensemble, non, ça va pas bien. Quel plaisir de vous revoir après vos trois semaines de vacances.
Mais quel faux cul.
Incroyable, bon, ça, vous m'avez pas manqué du tout. Hein.
Enfin, en fait, c'est vrai.
Ouais, j'ai remarqué que si on veut avoir beaucoup de vacances, il faut être soit prof, soit animateur de matinale sur Sud Radio.
Ah bon?
Vous avez les vacances donc, toutes les deux semaines à peu près. Oui, c'est vous êtes les seuls Français qui avaient plus de jours de vacances que de jours de travail tous les deux.
Ah bon?
Donc bravo, ça me fait plaisir. Oh, et non, comme d'hab, si, arrêtez.
Qu'est-ce qu'il ne faut pas
Richard,
entendre.
On annule la séquence, on passe au suivant.
Non mais j'ai la rage parce que comme d'hab, vous partez tous les deux en vacances et on n'emmène pas le petit. On dit allez lui, on s'en fout, on devait partir tous les trois aux Seychelles.
On vous a laissé, à la crèche.
Avec des babysitters. On devait partir tous les trois.
Avec des babysitteuses aussi,
effectivement. Et là, j'ai attendu la gare pendant deux jours, on devait partir aux Seychelles tous les trois. Et hop, pas du tout, vous êtes partis tous les deux. Alors, ils ont été formidables.
Aux Seychelles, oui, c'est ça.
Aux Seychelles. Vous êtes tout noir, vous êtes magnifique. Ouais. Franchement, c'est incroyable.
C'est
dehors.
Alors, il y a Laurence Garcia.
Il n'y a pas de trace du masque, hein, vous avez vu?
Non, vous êtes très
fort. Mais parce que quand vous êtes seul, face au soleil, vous n'êtes pas obligé de porter
c'est
le masque.
Vrai. Ouais, c'est vrai. Mais vous n'étiez pas au but de Chaumont. Vous n'étiez pas au but de Chaumont.
Non, au but de Chaumont, non.
Pas du tout. Non, alors, ils ont été formidables, vos remplaçants Laurence Garcia et Benjamin Blaise.
Glaise,
excusez-moi.
Déjà, ça commence bien.
Excusez-moi. Non, mais ils ont été très sympa, ils m'ont rappelé mes débuts quand je faisais de la radio en CE2 à l'école et c'était très cool. Non, mais ils ont été sympas de vous rendre le micro parce que normalement, vous connaissez l'adage,
c'est vrai.
Il va à la chasse, perd sa tasse.
Place.
Donc à sa place, excusez-moi. Mais bon, maintenant on s'est retrouvés, on ne se quittera plus jamais, d'accord, tous les trois. Et surtout, pour votre retour, j'ai un message. Désolé, Cécile.
Bonjour Cédric, je suis Laurent, directeur de club de vacances naturiste clandestin. Et comme on a les menus de Pierre-Jean Chalençon, ici on a aussi des champignons. Bon, beaucoup de mes clients gardent le masque pour rester incognito, mais moi on me la fait pas, hein. Je vous ai reconnu la semaine dernière, Patrick Roger. Même si vous étiez là, incognitub.
Bravo.
C'est mignon, c'est
mais non, mais ça vous va bien, en tout cas. C'est
une réputation, donc, Patrick Roger, mais vous avez le dos large, Patrick, quand même. Hein.
Très, très large. Ça me fait plaisir qu'il soit de retour. Alors, si je vous dis.
Il est patron du camping doux, lui, notre ami, là.
C'est au Cap d'Agde.
Ah, c'est au Cap d'Agde.
Ouais, non, c'est à la queue en Brie, me dit-on. Ah bah. C'est plus précis, excusez-moi.
C'est sympa, mais c'est moins glamour.
On embrasse les gens qui habitent à la queue en Brie, je ne sais pas comment on les appelle. Alors, si je vous dis.
Les queues le je crois, on les appelle.
Je crois. On embrasse Bézu. Alors, si je vous dis qu'il a un palmarès impressionnant, avec quand même 3 tournois remportés en 12 ans, dont le mythique tournoi Open Park Auvergne-Rhône-Alpes. Si je vous dis qu'il a empoché 8 millions d'euros grâce à ses performances, et si je vous dis que surtout, il a blessé 489 ramasseurs de balles, vous me répondez qu'on parle de Benoît Paire, bien entendu.
Toujours le même.
Vous avez vu, je suis dégoûté.
La tête de Turc, Benoît Paire et Neymar.
Mais pas du tout, vous avez vu que ce week-end, moi je suis dégoûté parce que j'adore Benoît Paire, il me fait beaucoup rigoler. Et la Fédération Française de Tennis a décidé de l'écarter. Il ne pourra pas participer aux Jeux Olympiques. Tout ça parce qu'il a des comportements déplacés. Je trouve ça scandaleux, vraiment. Je vais me
motiver. Il fait le spectacle.
Il fait le spectacle. Moi, j'adore ses comportements déplacés. Mais bien sûr, j'adore. On se régale. On regarde des best-of le soir quand on s'ennuie. Et Nelson Montfort. J'ai envoyé Nelson Montfort tenter de lui parler à Benoît Paire. On va voir à la sortie de son entraînement. Alors, pas son entraînement de tennis, son entraînement de kickboxing. Je viens de recevoir le message. On va voir.
Oui, Patrick, je suis en direct et en exclusivité avec Benoît Paire. I am in live with the guy completely dingo. Benoît, quelle est votre réaction à votre expulsion des JO? What is your reaction to the sub? Benoît, do you have the balls? Are you dégoûté? Comment va votre chatte? How is your pussy?
Bon, Nelson, je suis désolé, j'espère que ça va aller pour Nelson.
Remettez le son là.
Le son?
Non. Nelson,
je crois qu'il n'est plus là, Nelson. Je pense qu'on l'a perdu. Je suis désolé, Nelson. Bon, bah, alors pas de panique. Hein. Benoît
Paire. Personne n'a été blessé.
Malheureusement, je crois que si. Alors, Benoît Paire, il participera au JO 2024. Ne vous inquiétez pas, pour un nouveau sport olympique, le lancer de raquette. Il paraît qu'il peut assommer un moustique à 500 mètres, Benoît Paire. Et alors, pour votre retour ce matin,
on
l'embrasse. J'ai une surprise justement et vous allez pouvoir l'embrasser en direct parce que j'ai une surprise pour vous et pour les auditeurs de Sud Radio. Benoît Paire est avec nous.
C'est vrai?
En direct. Oui, attention, il ne veut parler qu'à moi, entre supporters de l'OM et surtout entre sportifs de haut niveau. Voilà. Merci beaucoup de vous moquer de moi, ça fait plaisir. J'ai préféré le téléphone parce qu'après ce que
ce qui est le plus proche de vous, haut niveau ou sportif ou ni l'un ni l'autre.
Les deux, je pense. J'ai préféré le téléphone après ce qu'a vécu Nelson. Alors on me dit qu'il est en ligne. Bonjour Benoît Paire. Merci d'être sur Sud Radio. Alors quel est le premier mot qui vous vient à la bouche après votre éviction des JO?
Pourquoi?
D'accord, alors je comprends, c'est concis. Hein. Alors, pour entrer un peu plus dans les détails, j'imagine que c'est une énorme déception pour vous, parce que les JO, c'est l'apogée d'une carrière, quoi.
J'en ai rien à cirer, quoi. Je veux dire, vraiment, ça me passe, mais à des années-lumière. Quoi.
Ah d'accord.
J'en ai rien à branler, rien à foutre, et je vais rentrer chez moi.
D'accord, c'est un témoignage plein d'humanité, hein, c'est très poignant. Alors, Benoît, je sais que voilà, vous avez rendez-vous pour un entraînement de coup droit avec Jean Lassalle dans quelques instants. Alors, une dernière question.
Avec Jean Lassalle.
Avec Jean Lassalle, oui.
C'est
bien sûr.
Alors,
bien sûr. Alors, est-ce que vous avez une explication, Benoît Paire, à cette décision de la fédération ?
Toute ma vie, j'aurai un manque de chat ! Ah. Toute ma vie, putain.
Eh ben, c'est une explication plausible. Alors, merci Benoît pour cette interview édifiante et exclusive pour Sud Radio. J'espère que.
Non, mais ça, ce sont des extraits quand même bien réels, quoi, en plus. Hein.
Mais c'est ça qui est terrible. J'avais tellement de choix, je pouvais faire ce que je voulais, je pouvais faire 5 chroniques sur ça. C'est magnifique. Bon, allez, il est temps de jouer.
Ah, d'accord.
Attention. À Épernay, dans la Marne, ouais. Qu'est-il arrivé à 140 personnes? Elles ont été bloquées pendant 4 heures dans un supermarché? Elles pensaient avoir été vaccinées au Pfizer alors qu'en fait, il s'agissait de sérum physiologique. Ou ces 140 personnes ont découvert qu'elles étaient les enfants cachés de Patrick Roger.
Ah, ça pourrait être les trois, mais moi je dirais la deux quand même.
La deux, ouais. Ben oui, vous avez vu, c'est
du sérum physiologique à la place du Pfizer.
Mais ouais. Quelle belle histoire quand même, à la française. 140 personnes se sont fait vacciner avec du sérum physiologique alors qu'elles pensaient que c'était du Pfizer, voilà. Ouais. Alors sérum physiologique, c'est ce qu'on utilise notamment pour nettoyer les yeux des bébés,
ouais,
les nez des bébés, c'est de l'eau salée quoi. Heureusement que c'est pas arrivé à Gérard Depardieu parce qu'il est allergique à l'eau. Et un auditeur réagit, bien entendu.
Bonjour Cédric, c'est André, je suis informaticien. Oui, je forme les chiens Word et Excel.
Ah, c'est bien.
Bon, je vois qu'à Épernay, 120 personnes ont été vaccinées en croyant que c'était du Pfizer, alors qu'en fait, c'était du sérum physiologique. Heureusement que c'est pas mortel, hein. Ah ben, on est passé pas loin du drame. Ah, ça aurait pu être pire, elles auraient pu recevoir une seringue d'AstraZeneca.
Oh,
ah, ça aurait été une catastrophe.
Complot, pour... ça continue.
Bien sûr, ça continue. Alors, c'est vrai qu'on peut se tromper de produit sur un patient, à la limite, mais pas sur 140 patients d'affilée. C'est exceptionnel, comme dirait l'autre.
On ne change pas une équipe qui gagne.
Mais
c'est
mais
comme
140,
ça.
Vous vous rendez compte? C'est comme si tu mettais 140 fois du gasoil alors que ta voiture, elle est voiture essence. C'est incroyable.
Bah, tu n'as pas compris, tu recommences
mais
en fait.
Mais je trouve ça fou. Et je voudrais avoir une pensée pour ceux qui ont pris, du coup, le Pfizer pour se nettoyer les yeux. Parce qu'il y a eu l'inversion. Mais forcément, il y a eu l'inversion, les pauvres gens. Alors,
c'est
je pense qu'aujourd'hui.
Pas pensé à ça.
Mais bien sûr. Moi, je pense
ils
que
ont
gens...
tous des lunettes de soleil là, aujourd'hui
mais
parce qu'ils ne voient plus rien.
Ils ne voient plus rien. Et une canne. Et ils ont une canne aussi.
Non, ça ne va pas jusque-là, ils sont éblouis.
Bah, je pense qu'ils sont éblouis. Voilà, ils ne voient même pas comme vous êtes bien bronzés tous les deux. Alors, à Épernay, tu y vas pour te faire enlever les dents de sagesse. Au final, tu te réveilles, ils t'ont enlevé toutes les dents, sauf les dents de sagesse. C'est ça qui est très fort.
Mais vous allez nous fâcher avec tout le monde comme ça tous
les
jours.
Bah, oui, bah, vous m'avez manqué, donc du coup, je me rattrape. Et pour finir, on va se fâcher avec Jean Castex, bien sûr, parce que vous savez qu'il nous laisse toujours un petit message. On s'adore, on s'est écrit pendant que vous étiez aux Maldives, il voulait partir avec vous. Alors lui, on aurait
installé les Seychelles tout à l'heure. C'est passé aux Maldives, on a passé par le Cap d'Agde et maintenant.
Et on va finir à Clichy-la-Garenne.
Et tout voilà. Ça en une semaine, mais c'est fou.
Vous êtes très fort. Ouais. Alors c'est vrai que Jean Castex, il nous a dit que possiblement, éventuellement, ou on pouvait éventuellement avoir l'espoir de réouverture des lieux qui nous manquent depuis un an.
C'est très hypothétique.
C'est très hypothétique, c'est au conditionnel, mi-mai. Alors il a choisi Sud Radio pour s'exprimer, comme Benoît Paire. Eh bien allons-y, partons à Matignon.
Que de la star ce matin.
Ah oui.
Françaises et Français, le gouvernement vous confirme que le 15 mai, les bars, les restaurants et les lieux culturels seront ouverts.
Ah.
Ils seront ouverts en Espagne.
Ah oui, bon d'accord, donc on est foutu. On ne pourra pas y aller, je suis désolé.
On n'y arrivera jamais.
Mais aux Maldives, c'était ouvert?
Ouais, je ne sais pas.
Mais en Espagne, c'est déjà ouvert.
Ouais, c'est ça, tout est ouvert.
En tout cas, ça
enfin, pas tout,
fermé.
Mais
ça va peut-être refermer, on ne sait pas.
Oui, ça va refermer, bien sûr.
Bon, ben voilà, je vais commencer à écrire les lettres d'excuses à tout le monde.
Neymar, on s'en occupera mercredi, puisque c'est mercredi soir, le Paris Saint-Germain.
Ah ouais, mais...
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Cédric Cizer, que vous pouvez retrouver du lundi au mercredi à 8h20 dans le Grand Matin Sud Radio avec Patrick Roger et Cécile de Minibus. Et c'est déjà la fin du meilleur de Sud Radio. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve bien sûr le week-end prochain. D'ici là, prenez soin de vous. Excellent week-end à tous à l'écoute de Sud Radio.